les enfants de Cronos. Bonjour à tous, chers auditeurs. Aujourd'hui, c'est moi qui vous parle, Nicolas Bilot, archéologue. Une petite notice historique sur le château de Crépy-en-Valois. Les sires de Crépy-Nanteuil sont issus au XIe siècle d'une branche cadette des comtes de Crépy, mais ils sont également leurs plus puissants vassaux. Ils possèdent en 1220 une quarantaine de seigneuries et des droits importants, par exemple sur l'entrée des marchandises dans la ville de Crépy ou sur la grurie de Nanteuil, cette circonscription administrative en charge de la gestion forestière du Valois. La plus surprenante de leurs possessions est très certainement la seigneurie du Donjon. Trois seigneurs se partagent la ville intramuros depuis le XIe siècle, le comte de Crépy bien sûr, l'abbé de Saint-Arnoux et le sire de Nanteuil. Ce dernier possède d'ailleurs aussi le faubourg Sainte-Agathe, qui se développait sur ce qu'est aujourd'hui le parc Sainte-Agathe. Or, ce qui manifeste l'autorité du sire de Nanteuil dans la capitale du comté, c'est son château, le Donjon, qui est aujourd'hui celui que tout le monde surnomme un petit peu hâtivement le château de Crépy-en-Valois. En fait, il n'en est, à l'origine, qu'une partie détachée. Reprenons la genèse. Les comtes de Crépy, déjà probablement installés sur l'éperon depuis un siècle au moins, avaient fait de ce lieu leur capitale. Ils avaient implanté là une motte castrale, premier édifice fortifié et symbolique, dressé sur un tertre artificiel et séparé de sa cour à l'est par un fossé. Dès les premières années de l'an 1000, l'abbaye Saint-Arnoux, tout juste fondée, et le château furent protégés par une première enceinte qui séparait le bourg de la cité. Vers 1040 donc, lorsque Raoul II décide de diviser ses biens entre ses deux fils, Raoul III son aîné et Thibaut Ier son cadet, il divise aussi le château. Thibaut hérite dans ce contexte du donjon, partie la plus au sud de la cité, et Raoul, l'aîné, garde tout le reste. Ce type de division est peu courant, mais pas inédit. Il reste cependant très rare à cet échelon de pouvoir, le pouvoir comtal. Quoi qu'il en soit, du château de Thibaut Ier de Crépy-Nanteuil, celui donc qui hérite de Raoul II, son père qui avait divisé les biens, au XIe siècle, nous ne savons rien. De son château de Nanteuil, nous n'en savons d'ailleurs pas vraiment davantage. Mais à partir de la fin du XIIe siècle, le château du Donjon prend progressivement la forme de celui que nous connaissons aujourd'hui. Alors décrivons l'état actuel point par point. Pour le visiteur d'aujourd'hui, le château se caractérise tout d'abord par une fort belle chapelle castrale, la collégiale Saint-Aubin que l'on découvre en général en premier lorsque l'on arrive pour visiter l'emplacement du château. C'est une collégiale car elle est desservie, comme son nom l'indique, par un collège de chanoines, c'est-à-dire un groupe de religieux au mode de vie presque monastique, mais qui vit dans le monde avec les mortels, avec les gens qui ont un mode de vie courant. Elle présentait dès l'origine, cette chapelle, une double entrée, une vers la ville, une vers le château, puisqu'il s'agissait à la fois d'un édifice seigneurial et public. Tout récemment restauré, elle constitue aujourd'hui l'entrée du beau musée de l'archerie, et je ne peux que vous encourager à franchir le seuil, car vous y découvrirez une architecture délicate et élégante, ainsi que les vestiges d'une peinture murale côté ville, où certains ont pu voir l'enterrement de Saint-Aubin, celui auquel la chapelle est dédiée. Mais attention, il s'agit de mieux que cela, car cette collégiale est en fait un édifice double. Au-dessus de l'édifice public de Thibaut III a été édifié rapidement, par son fils Philippe Ier, un second niveau, accueillant une chapelle privée, dédiée à Sainte-Marie. Il s'agit là de la chapelle seigneuriale à proprement parler, accessible uniquement depuis l'étage noble du château, via une passerelle qui accueillera vraisemblablement également une salle capitulaire. Ensuite, le regard s'arrête évidemment sur l'ensemble principal, avec des belles baies jumelles, typique des alentours de 1200, vous savez, ces très belles fenêtres avec des linteaux communs, qui étonnent toujours le non-spécialiste. Est-ce qu'on a affaire à une tour ou est-ce qu'on a affaire à un logis? Les deux, en fait. Et l'on perçoit bien deux volumes imbriqués l'un dans l'autre. Le premier, le plus vaste, est la partie publique de la résidence, qui accueillera les grandes salles de réception et d'audience. le second volume, presque carré, qui serait entre guillemets au bout du château, étant décroché au sud-ouest, il est presque une tour qui accueille à chaque étage vraisemblablement la partie résidentielle du château, la partie privée. On trouvera par exemple une cheminée, un évier et, élément essentiel du confort aristocratique, des latrines. Le plus surprenant est peut-être d'ailleurs dans cette partie de la bâtisse, car, par défaut, avouons-le, nous sommes tentés de placer au rez-de-chaussée de cette partie une prison. Et c'est au troisième niveau que l'on se figure certainement le mieux ce qu'était la somptuosité du pôle de commandement des sires de Nanteuil à Crépy. Chambre à latrine communiquant par une antichambre à la grande salle noble sous comble. Deux, voire trois cheminées. Accès direct à la chapelle seigneuriale et escalier privé et peut-être salle capitulaire. Un ensemble formidable qu'il faut, avec les yeux de la foi, se figurer avec des décors peints, des tentures, des meubles et une intense vie de cour lorsque le sire est présent. Pour l'anecdote, même si pour les spécialistes il s'agit de bien plus que cela, la charpente du logis que vous pouvez admirer a tout récemment été datée par dendrochronologie, cette méthode de datation à partir des cernes des bois des poutres. Et cette méthode a donné des résultats fondamentaux. Le comble, la charpente, est de la décennie 1210-1220, celui sous lequel a parlé, dansé ou rendu la justice Philippe Ier de Nanteuil dès la première moitié du XIIIe siècle. La charpente a 800 ans. Voici qui en fait une des plus anciennes charpentes du Valois, et notez tout de même quelques légères modifications postérieures, mais la structure reste la même. Alors il manque beaucoup de choses dans ce donjon. Les cuisines, nous les placerions volontiers au rez-de-cour, mais rien ne l'indique clairement. Les celliers, le stockage, il est vrai qu'il n'y a pas de cave sous le château, bien que Crépy en Valois soit un vrai gruyère. Donc il faut là encore plutôt les situer au rez-de-chaussée, voire peut-être en association, en synergie avec les cuisines dans la cour. Des dépendances ? La cour paraît bien mince aujourd'hui, et force est de proposer une hypothèse de partage des dépendances entre les deux sites voisins des deux branches de la famille. Deux châteaux voisinés, mais peut-être partageaient-ils une basse-cour commune. Les jardins ? Certainement très étroits eux aussi, s'ils ont même existé. Mais surtout, où est la défense dans ce château ? Et oui, c'est peut-être tout de même le plus important autour de ce site surprenant, l'absence totale d'éléments défensifs. Mais c'est, vous l'avez compris, que ce château médiéval que l'on qualifie trop rapidement de château fort, comme la plupart de ceux que nous avons présentés jusqu'ici, est autre chose qu'une forteresse. Déjà bénéficie-t-il de la fortification de la ville de Crépy et de l'escarpement naturel de l'éperon. Mais surtout, ce château, ce donjon, puisqu'il est mentionné comme tel dans les textes, est avant tout la résidence d'un lignage puissant, en pleine ascension, presque à l'apogée de son pouvoir, et dont l'objectif premier est de marquer l'identité de la capitale du comté par un palais remarquable, présentant chapelle et logis-tours élégantes, à l'image de ceux des puissants barons voisins. C'est une chance que la ville de Crépy-en-Valois ait racheté le site du château en 1828. Il avait, entre-temps, servi notamment de siège de justice, d'où son surnom parfois d'auditoire. Il est progressivement devenu, depuis lors, dans l'imaginaire collectif, le château de Crépy-en-Valois, puis, par extension, celui des comtes de Crépy. Il était en réalité celui de leurs cadets, les sires de Nanteuil. Et finalement, vous me direz peut-être, et le vrai château des sires de Crépy alors, qu'en est-il ? Eh bien, il ne vous a pas échappé qu'il a disparu aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle j'en parle peu. Il est presque totalement effacé de l'histoire de la ville, d'ailleurs. Seul en reste des indices ténus, mais des grandioses tours du Valois le signent. Il s'agit de son ancienne porte principale, malheureusement inaccessible, à peine visible du parc du musée. Pour faire bref, sa disparition s'est faite en deux temps. Tout d'abord, le château fut ruiné par un incendie provoqué par les troupes anglaises lors de leur capture de la ville en 1434, pendant la guerre de Cent Ans. Et ces mêmes ruines ont ensuite été exploitées en carrière de pierre par les habitants de la ville, et ceci sous l'autorisation de Charles d'Orléans, le prince poète, duc de Valois, qui à son retour d'emprisonnement à Londres, offrit les vestiges de son château afin que les habitants puissent rebâtir leur maison dévastée. On peut donc dire aujourd'hui sans se tromper que la plupart des vieilles maisons de la ville de Crépy-en-Valois recèlent certainement dans leur maçonnerie quelques vieilles pierres du château comtal. et qu'une belle enquête archéologique globale serait des plus stimulantes pour les spécialistes.